Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
J'aimerais commencer cette étude par la lecture de trois textes bibliques. D'abord, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 à 10. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10. L'apôtre Paul dit, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Deuxième texte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, l'épisode à l'Istre, vous savez quelles circonstances ont occasionné ce discours de l'apôtre Paul. Il venait juste d'y avoir la guérison d'un infirme, et ces païens pensaient que les dieux Zeus et Hermès étaient venus sur terre en la personne de Paul et de Barnabas, et ils voulaient leur offrir un sacrifice. Alors on nous dit au verset 14 de acte 14, les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. » Deuxième texte, acte chapitre 17, le fameux discours de Paul à l'Aréopage, acte 17. Je commence à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient, il semble être un prédicateur de divinités étrangères, cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent, « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde, selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux, Denis l'Aréopagiste, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. L'apôtre Paul, qui a été chargé d'annoncer l'évangile aux païens, devait tôt ou tard rencontrer la philosophie grecque et confronter le message de l'évangile à cette sagesse humaine. Cette rencontre s'est faite à l'Aréopage, et une telle rencontre ne peut être qu'exemplaire, comme d'ailleurs est exemplaire la prédication de Paul aux Juifs d'Antioche, que l'on trouve au chapitre 13. Un tel épisode dans la vie de Paul n'est pas anecdotique, mais typique, parce que Luc nous présente ce discours comme une prédication type aux païens. On a pu dire que ce texte est le grand document missionnaire du Nouveau Testament, parce que l'Évangile va rencontrer une culture autre, un langage nouveau, une langue nouvelle. Avec les Juifs, c'était différent. Il y avait l'Ancien Testament. Les points de contact étaient évidents. Il s'agissait de montrer que Jésus de Nazareth est bien le Messie promis, puisqu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ici, avec les Grecs, l'Évangile est transporté dans une autre ère culturelle. Impossible de suivre le schéma classique de la prédication en milieu juif. Impossible, si l'on veut être compris, de partir de l'Ancien Testament. Impossible de partir du Dieu de l'Alliance. Il y a une mentalité différente, il y a des façons de penser, d'argumenter, de raisonner différentes. Les catégories conceptuelles sont différentes. L'apôtre Paul va affronter toutes ces difficultés et il va nous fournir un modèle de prédication aux païens. Cependant, certains pourraient juger que ce texte n'est pas aussi pertinent qu'on le voudrait, pour au moins deux raisons. La première, c'est que ce discours ne serait effectivement un modèle, mais un modèle à ne pas imiter. C'est le modèle de ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que ce discours aurait été un véritable échec. Il représenterait une tentative bien malheureuse d'accommodation du message de l'Évangile à la philosophie grecque. La deuxième objection que l'on fait souvent, c'est de dire qu'il est difficile de transposer ce modèle de prédication, en tout cas à notre époque d'aujourd'hui, à notre situation occidentale d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus en Occident dans une situation pré-chrétienne, mais bien post-chrétienne, alors que la ligne d'argumentation de l'apôtre Paul conviendrait surtout à des personnes qui ne connaissent pas ce nouvel enseignement, comme le nomment les philosophes au verset 19. Or, de nos jours, le christianisme, pense-t-on, est trop connu, et il est jugé même dépassé par certains, en particulier ceux qui veulent entrer dans une autre ère selon un certain découpage astrologique du temps. Je fais référence au Nouvel Âge, entre autres. Le christianisme n'offre ni l'attrait de la nouveauté, ni l'avantage du dépaysement exotique, comme d'autres spiritualités à la mode. Considérons d'abord assez rapidement ces deux objections, avant de regarder en détail la stratégie de l'apôtre Paul. La première, à savoir que Paul aurait échoué. Je ne m'y attarderai pas longtemps parce que la question a été souvent débattue, les arguments sont bien connus. Ceux qui estiment que cette prédication de l'apôtre Paul aurait été un échec s'appuient en général sur le peu de conversion qu'il y a eu et surtout sur ce que Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 1 et 2. Parce qu'il dit dans cette première épître aux Corinthiens, « Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. » Alors, selon les tenants de cette thèse, cet échec aurait d'ailleurs eu d'heureuses conséquences chez Paul, puisqu'il aurait été obligé de changer sa prédication. Il n'a plus essayé de l'adapter à la philosophie, mais il est revenu au simple évangile, Christ crucifié et rien d'autre. Mais est-ce véritablement un échec? Paul a-t-il vraiment tenté d'accommoder son message à la philosophie grecque? Le verset 32 nous dit bien que quelques-uns se sont moqués, mais le verset 34 signale quelques conversions, notamment celles de Denis et de Damaris. Certes, c'est moins que les 3000 de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, mais c'est plus qu'Étienne. Et d'ailleurs, il faut se méfier de l'idolâtrie de l'efficacité. Le nombre de conversions ne permet pas forcément de juger d'une bonne prédication. Ce n'est pas le critère absolu. Sinon, que faudrait-il dire du discours inaugural de Jésus en Luc chapitre 4? Jésus commence sa prédication, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous connaissez ce texte et vous savez comment ce discours se termine. On veut le précipiter d'une falaise. Alors, comme les autres prédications du livre des Actes, celle-ci est un signe de contradiction. Un signe de contradiction qui provoque la foi et l'hostilité tout à la fois. Ceci démontre néanmoins une chose. C'est que même si ce texte peut être pour nous un modèle de prédication missionnaire, il ne nous est pas donné comme une recette dont le succès serait automatiquement garanti. Faut-il parler d'accommodation sans discernement de l'évangile à la philosophie grecque, à l'ère du temps, de l'époque? Contre une telle idée, on peut faire deux remarques. D'abord, on peut montrer que Paul reste bien dans les lignes de la théologie de l'Ancien Testament. Il ne quitte pas la foi de l'Ancien Testament. Il n'y introduit aucun élément étranger. Dans son discours, il parle du Dieu créateur, du Dieu unique, souverain, qui ne doit rien à personne, qui a créé l'homme en son image. Et même Paul va plus loin. Il oppose un triple refus, un triple non aux païens. Non, Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Non, il n'est pas servi par des mains humaines. Non, il n'est pas semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre et être représenté par ces choses. Ce qui montre bien le caractère insaisissable, mystérieux de Dieu qui n'a rien à voir avec les idoles. Ce triple refus, ce triple non de l'apôtre Paul révèle bien l'attitude critique de son discours. Et il montre bien qu'il se situe dans la tradition biblique. Il affirme aussi clairement l'ignorance des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Leur démarche religieuse peut être traitée de tâtonnement. Il y a chez eux une dialectique de la recherche et du refus. Il y a bien chez eux une quête, une recherche de Dieu. Mais ils refoulent, ils pervertissent la vérité à laquelle on peut accéder par la révélation naturelle. Et l'apôtre Paul dit bien que leur ignorance est coupable, et c'est pourquoi ils doivent se repentir, parce que Dieu jugera les hommes. On peut mettre aussi en évidence les parallèles de ce texte avec les deux autres textes que nous avons lus, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10 et Actes 14, verset 6. Certains commentateurs estiment que 1 Thessalonicien que nous avons lu reflète probablement une formulation standard de la prédication primitive aux païens, qui serait traditionnelle même avant Paul. Or, le verset 9 de 1 Thessalonicien correspond assez bien au verset 6 d'Actes 14. Vous devriez vous détourner de ces vanités et vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et le verset 10 d'1 Thessaloniciens, chapitre 1, développe des thèmes qui sont très proches d'Actes 17, 31. Dieu va juger le monde selon sa justice par un homme qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc on peut voir des parallèles entre ce texte d'Actes 17 et d'autres textes bibliques, ce qui montre bien que l'apôtre Paul est dans la tradition biblique. Alors, deuxième objection que l'on fait, à savoir que ce texte ne serait pas aussi facilement transposable à notre situation occidentale, parce que nous ne vivons pas une période pré- mais post-chrétienne. Il me semble que des parallèles avec notre situation contemporaine en Occident sont possibles. D'abord parce que l'homme d'aujourd'hui, comme celui d'autrefois, demeure un être religieux, un chercheur de Dieu, parfois même un fabricant de Dieu. Nous avons vu que l'avènement de la sécularisation, les progrès de la science, de la technique, n'ont pas entraîné, comme on le croyait, une disparition de la religion ou de la spiritualité. Notre situation actuelle est assez proche de celle de l'Empire romain. Paul a visité une ville qui abritait un véritable hypermarché spirituel. On y trouvait de tout, même un hôtel à un dieu inconnu, au cas où. Il y a une analogie avec notre société de consommation qui consomme également la religion, même avec la possibilité de se constituer une religion à la carte. L'homme demeure un chercheur de Dieu. Malheureusement, cette recherche est mal dirigée. De nos jours, on peut vraiment parler d'un renouveau du paganisme. Nous nous trouvons de plus en plus dans un contexte païen en Occident. Wissert Hoft, qui a été secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, a démontré, je crois, dans un article très brillant, que parallèlement au processus de sécularisation qui marquait l'Occident, il se développait également un processus de paganisation, parallèlement à ce processus de sécularisation. C'est vrai que le mot païen peut sembler a priori péjoratif et surtout anachronique, mais certains lui redonnent ses lettres de noblesse. Qu'on cite par exemple le livre de Marc Auger, dont le titre est « Le génie du paganisme ». D'autres personnes se revendiquent ouvertement païens, et de plus en plus. Je peux renvoyer ici aux travaux d'Alain de Benoît, Alain de Benoît qui est le chef de file du mouvement de la Nouvelle Droite en France, et qui a écrit un ouvrage qui a un certain retentissement, dont le titre est « Comment peut-on être païen ?». Et dans ce livre, il confronte le paganisme au monothéisme judéo-chrétien, et il estime que le paganisme est plus authentiquement religieux par sa référence au sacré que le judéo-christianisme qui, selon lui, instaure un fossé infranchissable entre l'homme et le Dieu créateur. Beaucoup de poètes revendiquent aussi un certain paganisme. Ils pleurent les anciens dieux. Ils proposent leur retour aux divinités païennes. On a parlé à ce propos d'antichomanie. La manie de l'ancien, de ce qui est antique, le retour aux anciennes divinités. Ces personnes accusent le judéo-christianisme d'avoir désenchanté la nature. Ils affirment la supériorité morale, politique, esthétique surtout, de l'antiquité gréco-latine sur ce qu'ils appellent les siècles obscurs de christianisme. Dans certains rangs féministes et écologistes, on voit également l'émergence de certains mouvements païens prônant soit un retour grossier au culte païen, celui des déesses mères par exemple, soit un panthéisme sophistiqué. Vous savez, le panthéisme, cette confusion, cette identification de Dieu et de la nature, ou de Dieu et du cosmos. C'est le cas, par exemple, de l'écologiste Edward Goldsmith, dans son livre « Le défi du XXIe siècle, une vision écologique du monde », il défend un panthéisme bien sophistiqué. On peut donc parler de paganisme, ou de néopaganisme, si l'on veut éviter l'anachronisme, mais il est bien réel aujourd'hui. Henri de Lubac l'avait bien pressenti, il affirmait que le néopaganisme est le grand phénomène spirituel de notre temps. Et il ne faut pas croire que ce néopaganisme touche uniquement les intellectuels, toute la population. Ce néopaganisme peut être décrit dans sa forme la moins brutale ou la plus subtile, comme vous préférez, comme une forme d'immanentisme, sans transcendance, d'immanentisme ou de spiritualité panthéiste ou vitaliste. Wiesert Hofft, dans cet article que je vous citais, a analysé ce paganisme. Il utilise une expression assez technique pour la qualifier, mais cette expression cible bien ce que c'est. Il définit ce néopaganisme comme un monisme cosmique impersonnel, avec l'identification de Dieu et de la nature ou du cosmos, qui a des affinités évidentes avec le paganisme pré-chrétien. Il est vrai que le panthéisme a de nos jours le vent en poupe. Beaucoup de scientifiques très épris de métaphysique glissent malheureusement vers ce versant. On peut citer aussi les nouvelles gnoses, le nouvel âge, tous ces mouvements sont globalement panthéistes ou panthéisants. Certains théologiens y sont tentés également. Ils ne parlent pas brutalement de panthéisme, mais de pananthéisme avec dans leur jargon, mais on n'est pas très 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 loin du panthéisme. D'où la pertinence d'un tel texte. Ce texte d'Actes 17 reste pertinent pour d'autres raisons encore. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul ne peut pas tabler sur la connaissance de l'Ancien Testament. Or, de nos jours, il y a une très grande inculture biblique et théologique. Beaucoup de personnes pensent connaître le christianisme, mais ils n'en ont qu'une connaissance superficielle ou caricaturale. Nous ne pouvons plus véritablement compter sur une certaine culture biblique, un résidu de catéchisme. De temps en temps, j'ai pas tout le temps souvent l'occasion, mais je regarde Question pour un champion. Et je suis souvent surpris par le fait que certaines personnes qui sont assez cultivées butent sur des questions bibliques. Une fois, j'ai regardé la finale des Masters, ce qui regroupait les meilleurs candidats de l'année. Et le présentateur a posé une question biblique, c'était la seule que je connaissais de la série. Mais il posait la question du lieu du premier miracle du Christ. Et personne n'a su répondre. Aucun des candidats n'a su répondre. Et lorsque le présentateur a donné la réponse, aucun des candidats n'a eu un geste ou une émotion qui laissait penser qu'il avait su, mais qu'il avait oublié. Cette inculture biblique, d'ailleurs, se rencontre dans nos églises. Les réunions d'études bibliques sont relativement peu fréquentées, et l'attente le dimanche matin est souvent pour une prédication-exhortation, une prédication-encouragement qui aide à faire face aux pressions de la vie. Je suis souvent surpris par le décalage qui existe entre l'érudition des exégètes qui se déploient dans les commentaires bibliques, très très bien fait ce travail, des hommes très érudits, et l'ignorance, la pauvreté de la culture biblique du chrétien de base. Inculture biblique aujourd'hui, comme il y avait ignorance de l'Ancien Testament à l'époque de Paul pour ces païens, mais de plus, aujourd'hui, il y a un refus presque systématique de tout argument d'autorité. On ne peut plus dire la Bible affirme pour que notre parole soit prise d'emblée, permettez-moi l'expression, comme parole d'évangile. Même quand on dit la Bible affirme, notre parole n'est pas prise automatiquement comme parole d'évangile, même si le proverbe reste, le contenu s'est vidé. Dans notre climat pluraliste, la parole biblique est souvent perçue comme une parole parmi d'autres qui doit entrer dans la logique de l'argumentation. Autre analogie, c'est que le travail de traduction du message est à faire aujourd'hui, comme hier, dans la langue des auditeurs. Certains aspects du message biblique sont de moins en moins compris par l'homme d'aujourd'hui, surtout, comme nous l'avons vu, ce qui a trait au vocabulaire juridique ou judiciaire. Il y a à la fois rejet et incompréhension. Il me semble que souvent en Occident, nous prêchons comme les apôtres l'auraient fait à un auditoire juif, alors que notre prédication devrait de plus en plus ressembler à une prédication à un auditoire païen. Il faut prendre davantage en compte l'existence de cet arrière-plan socioculturel et religieux pour la communication du message. Alors comment l'apôtre Paul s'y prend-il ? Nuance et fermeté, respect de l'autre et courage de ses convictions, diplomatie et honnêteté. Bref, dialogue critique avec le désir d'être vraiment compris et d'aboutir à des conversions. Dans un premier temps, on peut remarquer que Paul va tenter de se faire comprendre. Il va chercher sinon un fond commun, en tout cas un point de contact avec ses auditeurs pour amorcer le dialogue. Il se fait réellement tout à tous, ici grec avec les grecs. Vous aurez remarqué que son discours a une tonalité bien différente de ce qu'il affirme en Romains chapitre 1. Mais les buts sont différents. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux textes comme on opposerait une missiologie de type barthienne à une théologie de type, à une missiologie inspirée par Teilhard de Chardin ou Panikkar. Vous savez, ce sont les deux extrêmes. Barth qui définit la religion comme incrédulité, qui met l'accent sur la rupture, alors que Panikkar ou Teilhard de Chardin mettent plutôt l'accent sur la convergence des religions. Non, la différence entre Actes 17 et Romains 1 est davantage une différence de ton que de fond. Le message reste le même, c'est la présentation qui diffère. Dans son discours, Paul parle d'une vérité qui est reconnue par tous. Les Athéniens, dit-il, sont deisidaimonesteroi. Il emploie un mot grec à ce niveau, deisidaimonesteroi. Et l'ambiguïté de ce mot a été relevée à maintes reprises. Il peut avoir un sens positif, être très religieux, être scrupuleusement religieux. Par exemple, le procurateur romain Festus utilise le mot deisidaimonia en acte 25 pour désigner la religion juive, alors qu'il s'adressait au roi juif Agrippa. Or, manifestement, il ne voulait pas l'offenser. Donc, ce mot peut avoir un sens positif, mais peut aussi avoir un sens négatif et signifier être très superstitieux. L'auditoire l'a certainement reçu de manière positive, parce qu'on ne commencerait pas un discours en prenant d'emblée son public à rebrousse-poil. Donc certainement, ils l'ont reçu de manière positive. Mais Paul n'a pas cherché à indisposer ses auditeurs. Il n'a pas montré son exaspération à l'égard de leur idolâtrie. Là, on peut constater la différence d'avec Acte 14 à Lystre. À Lystre, Paul dit franchement ce qu'il pense. Les dieux des païens sont néants, sont des vanités dont il faut se détourner pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. C'est ce qu'il écrit aux Thessaloniciens dans le texte que nous avons lu. Mais à Lystre, le public et la situation étaient différents. Les païens de Lystre étaient un petit peu moins raffinés que ceux d'Athènes. Ce n'était pas le paganisme cultivé d'Athènes. C'était un paganisme plus frustre, on dirait. Ils allaient offrir aux apôtres un sacrifice, ce qu'il fallait éviter à tout prix. En 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul s'adresse à des païens convertis. Là, il peut se permettre d'être un tout petit peu moins nuancé. Mais faut-il accuser Paul de tenir un double langage, d'avoir une langue ad intra pour l'intérieur, pour les chrétiens, et une langue ad extra pour l'extérieur? Non, précisément parce que ce mot est ambigu. Paul, nous dit-on, verset 16, était exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Mais il a évité d'exprimer cette exaspération. Il n'a pas exprimé cette exaspération, mais il n'a pas approuvé pour autant cette superstition. En fait, en choisissant ce mot ambigu, ce qui est tout à fait volontaire, il a évité de se prononcer sur leur religiosité. Et il va exploiter l'autel dédié à un dieu inconnu, et il va s'en servir comme un tremplin, comme un pont, pour établir le dialogue avec ses auditeurs et marquer les différences à la fois, comme je signalais hier que l'on pourrait essayer de se servir comme d'un tremplin pour notre prédication, l'accent mis de nos jours sur la recherche de l'harmonie intérieure, de l'épanouissement personnel, pour entamer le dialogue et aussi marquer les différences. Verset 23, il dit « Ce que vous adorez sans le connaître, cela même, moi je vous l'annonce. » Cela montre que Paul prend ses auditeurs où ils se trouvent réellement et il chemine avec eux. Mais on notera aussi la prudence extrême de l'apôtre Paul. Le fait qu'il insiste bien sur les pronoms neutres, ce que, cela même, empêche une identification pure et simple entre le Dieu auquel l'autel est dédié et le Dieu dont il va être question dans la suite. L'apôtre Paul se montre très prudent à ce niveau. Toujours dans le souci d'aller à la rencontre de ses auditeurs, Paul va citer leur poète. Et il va montrer que ces poètes ont perçu une parcelle de la vérité biblique. Les stoïciens avaient bien perçu la prédétermination par Dieu des différents événements, l'unité du genre humain, thèmes qui sont fondamentalement bibliques. Ainsi, Paul va puiser dans le patrimoine culturel de ses auditeurs des expressions qui pourraient avoir certaines affinités avec son message. Il est conscient des écarts. Il faudra les purifier, il faudra les corriger, il faudra rectifier les angles. Mais il est soucieux avant tout de rencontrer les autres. Il faut du doigté pour faire un tel travail. Le danger de malhonnêteté et de fraude sémantique est bien réel. Vous savez, les chrétiens sont très attentifs quand on utilise certains thèmes bibliques en les sécularisant ou en les mettant au service d'idéologies qui sont étrangères à l'Évangile. Donc il ne faudrait pas qu'on nous retourne le reproche. Mais c'est parce que Paul fait ici. Il veut démontrer les contradictions qui sont internes à la pensée grecque. Et les citations qu'il fait ont un tel but, montrer l'inconséquence des auditeurs. Vous voyez, c'est un argument serré ici, entrer dans le système de l'autre et lui montrer qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des failles, il y a des contradictions internes qui, par conséquent, invalident son système. Je pense que ça vaut la peine de tenter une telle approche. C'est la règle du jeu de l'argumentation. Cependant, je signale une petite difficulté, c'est qu'il faut être conscient que si le refus de la contradiction est une nécessité intellectuelle, il n'est pas forcément une attitude existentielle. On peut constater aujourd'hui que l'homme s'accommode très facilement de contradictions et d'inconséquences. Parfois d'ailleurs, heureusement, Heureusement que les hommes ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Mais il y a beaucoup d'inconséquences et de contradictions dans la vie de l'homme d'aujourd'hui. Il suffit d'analyser sérieusement les sondages d'opinion. On nous dit, par exemple, qu'un pourcentage très élevé de Français pense ceci, mais que paradoxalement, un pourcentage tout aussi élevé pense cela, alors qu'on a bien l'impression que les deux positions sont contradictoires. Mais on les traite de paradoxes. De plus, de nos jours, en matière de vérité religieuse, le relativisme ambiant n'est pas fait pour arranger les choses. Il suffit de voir le bricolage syncrétique que les personnes font des diverses religions. Quand on utilise la méthode de l'argumentation, en tentant de montrer donc les inconséquences, les contradictions internes, comme le fait Paul ici, il faut compter un petit peu aussi sur la bonne foi des gens, ce qui n'est pas forcément évident. Mais je crois ça vaut la peine de faire cet effort, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous accompagne dans notre prédication. S'il fallait entrer dans la logique de l'argumentation sans compter sur l'œuvre de l'Esprit, je crois qu'on serait perdant d'avance. Non pas parce que la logique chrétienne ne serait pas défendable, mais à cause de la dureté du cœur de l'homme et de sa mauvaise foi. Mais parce que le Saint-Esprit est là pour soutenir notre prédication et travailler dans les cœurs, ça vaut la peine de faire comme Paul. En tout cas, l'époque actuelle s'y prête. Le syncrétisme est rarement cohérent. On pourra toujours démasquer des contradictions et les mettre en évidence. On peut remarquer encore que, dans un premier temps, Paul prend le temps de poser certaines fondations avant d'annoncer le salut, le sauveur aux païens. Avant de parler de Jésus-Christ, il prend le temps de poser des fondations. Quand il parlait aux Juifs, c'était pas la peine. Il pouvait annoncer directement le Sauveur, mais avec les païens, il faut faire cet effort. Comme l'a fait remarquer Émile Nicole dans un article de Hokma, il est inutile de faire retentir de grandes affirmations christologiques dans un univers de pensée qui n'est pas prêt à les recevoir. Et je me rends compte que dans nos églises, nous commettons souvent cette erreur. Nous sommes un petit peu tous barthiens sans le savoir. Il y a chez nous une sorte de concentration jésulogique dans nos églises. Je me rends compte que je corrige très souvent des frères et sœurs qui disent être enfants de Jésus. Peut-être que de nos jours, le Père a une tellement mauvaise image en Occident. Mais vous verrez bien que l'apôtre Paul ne commence pas à parler du Christ, du Sauveur aux païens directement, mais il commence à leur parler du Dieu créateur. Et même, comme l'a montré M. Nicole, l'annonce du Dieu créateur fait partie du message du salut. Il n'est pas un simple préalable, mais les parties intégrantes de ce message. Et j'en veux pour preuve le fait que dans les deux prédications aux païens, en Actes chapitre 14 et en Actes chapitre 17, le message de Paul est introduit avec des verbes qui appartiennent au vocabulaire de la prédication, de l'évangélisation, au vocabulaire kérigmatique. En Actes chapitre 14 verset 15, le verbe euangelizo, évangéliser, je vous annonce la bonne nouvelle qu'il faut vous détourner de ces idoles. C'est le verbe euangelizo qui est utilisé. Vous détournez de l'idolâtrie et vous tournez vers le Dieu vivant. En Actes chapitre 17 verset 23, le verbe katangelo, annoncer, qui appartient au vocabulaire donc de la prédication d'évangélisation, est utilisé. Et il a Dieu comme objet. Tout comme il avait Christ comme objet au verset 23 du même chapitre, où l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs et leur dit « Jésus que je vous annonce, katangelo, c'est lui le Christ ». Et l'apôtre Paul utilise le même verbe avec Dieu comme objet, Dieu le Père. En Actes chapitre 17, verset 30, l'apôtre Paul utilise le verbe parangelo. Et c'est le message de conversion qui en est l'objet. Et c'est Dieu qui fait cet ordre, qui donne cet ordre. Cela nous montre une chose. C'est que l'évangile ne peut pas se passer du message du théisme, du message du Dieu créateur. Dieu est notre créateur. Nous existons grâce à lui. C'est lui qui nous maintient en vie. Il nous a créés pour le servir. Alors, contre toutes les gnoses, toutes les théories panthéisantes du moment, il faut commencer par annoncer le monothéisme. Dieu ne se confond pas avec sa création. Il en est distinct, mais il l'aime et il continue à la sauvegarder. La prédication aux païens, dont l'arrière-plan était polythéiste ou panthéiste, commençait avec ce message. Et dans notre situation actuelle, avec le flou qui entoure la notion de Dieu, tendant vers le panthéisme ou même la vacuité, il faut revenir au message du Dieu créateur, parce qu'on risquera de se trouver avec des personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, mais qui ne sont pas sûres de l'existence de Dieu. Ce sont des choses qui sont arrivées. Dieu n'est pas ce vide qui nous appelle, mais il est un être personnel qui nous a créés dans un but et il nous appelle à une relation personnelle avec lui. Là, c'était l'aspect polémique de la doctrine de la création. Mais plus positivement, la doctrine de la création permet de répondre, de proposer une réponse à une des grandes questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur terre? Je ne suis pas le fruit du hasard, la conséquence d'un accident. Je suis une créature désirée, voulue par Dieu, créée à l'image d'un Dieu d'amour. Ainsi, je ne dois pas chercher une fausse autonomie, chercher à m'émanciper de mon Créateur, parce que c'est lui qui me maintient en vie. S'il enlevait son souffle, qui pourrait subsister? Voilà le mensonge et l'illusion de l'athéisme ou de l'indifférence. Ignorer celui de par qui nous sommes. Ignorer celui qui nous maintient en vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, il faut bien prendre le temps de poser les fondements du Dieu créateur. Mais il ne s'agit pas de rester au déisme, le Dieu créateur uniquement, qui se serait retiré par la suite. Et c'est la doctrine de la providence qui nous le rappelle. Dieu continue de prendre soin de ses créatures et de sa création. C'est ce que Paul annonce aux païens. C'est vrai que la providence de Dieu devient plus difficile à lire et à dire. La présence du mal, de la souffrance, rend la providence plus difficile à dire. Mais là, il faut avoir une vue d'ensemble, considérer les choses dans leur globalité. Paul va montrer ici l'importance de notre doctrine de la grâce commune. Quand certaines personnes peuvent se prévaloir d'une vie honnête, d'une vie droite, avec même un souci réel du bien de l'autre, il faut rappeler que c'est un effet de la grâce commune. Dieu préserve sa création et ses créatures, et il ne permet pas que le péché nous atteigne avec une intensité maximale. Notre Créateur, parce qu'il nous aime, continue à nous accorder les fruits de sa grâce. Et c'est ce que Paul dit aux païens. Actes chapitre 14, verset 17, il dit « Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. » En Actes chapitre 17, verset 25 et 28, Paul rappelle que Dieu donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et cela montre une chose. Contrairement à ce que nous avons tendance à faire, il n'est pas obligatoire d'essayer de convaincre les hommes qui sont fondamentalement malheureux, que leur vie est déjà un enfer, qu'ils sont tristes, que leur vie est gâchée. Ça existe. Quand de telles personnes sont dans certaines situations difficiles, on peut annoncer l'évangile autrement, mais sinon, l'expérience montre que ce n'est pas forcément vrai. Et théologiquement, c'est ne pas suffisamment prêter attention à la doctrine de la grâce commune. Donc finalement, à la doctrine de la création, puisque la grâce commune est une grâce de la création, une grâce créationnelle. Donc, on peut aussi partir d'une prédication sur la bonté de Dieu à notre égard et amener la question de la repentance. Paul dit en Romains chapitre 2, verset 4, « La bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance. » Et même, on peut creuser un peu plus. On peut montrer que même dans nos instants de bonheur, nous éprouvons aussi nos manques, nos insatisfactions, nos limites, notre besoin d'autre chose, de plénitude. Ce qui peut constituer un point de départ pour une quête, une recherche qui nous ouvrira à Dieu. Là encore, c'est une piste à exploiter. L'utilisation de notre doctrine de la grâce commune dans l'annonce du salut. Cependant, je signale là encore une petite difficulté qu'il faudra affronter quand on suit cette stratégie. Comme je l'ai signalé, la présence du mal rend la providence plus difficile à lire. C'est vrai que le mal a toujours existé. Les hommes de tout temps l'ont connu, ce qui n'empêchait pas les apôtres d'annoncer la providence de Dieu. Mais de nos jours, on y est plus sensible. Les progrès de la médecine ont rendu insupportable le spectacle de la souffrance. Et nos contemporains sont très sensibles à ce fait. Ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, il y a une forme de narcissisme, d'hédonisme, que tous les sociologues remarquent. Mais d'un autre côté, il y a aussi une grande solidarité. Les gens veulent une grande solidarité humaine qui se veut planétaire. Et si on dit à un hédoniste qui mène sa vie quotidienne de manière assez égoïste, de remercier Dieu pour sa grâce qui le remplit de joie, eh bien, à ce moment, il risque de se rappeler de tous les pauvres, de tous les SDF, de tous ceux qui meurent de faim. Il risque d'invoquer la solidarité humaine et aller jusqu'à un refus d'un salut ou d'une grâce qui ne soit pas effective pour tous. Il faut se préparer à recevoir ce type d'objection. Mais je crois qu'il vaut la peine d'exploiter aussi cette piste de la grâce commune. Considérons maintenant la fin du discours. La fin du discours de Paul n'est pas un simple appendice. On peut écarter une fois de plus l'hypothèse qui consisterait à dire qu'il serait décalé par rapport au reste du discours, que cet appel à la conversion serait un simple maquillage chrétien. L'apôtre Paul appelle ces philosophes à changer de mentalité, changer de pensée, changer de vision du monde, changer d'intention. C'est un coup d'audace ici. Inviter des philosophes à changer de mentalité, parce que se convertir n'a pas seulement le sens d'un changement moral, mais plus radicalement, c'est un changement complet de pensée, de vision du monde, de cadre conceptuel. L'apôtre Paul invite ces personnes à repenser, à reconsidérer leurs options philosophiques devant Dieu. Et même il leur parle du jugement. Dieu jugera ce monde. Là, c'est plus polémique. Les philosophes grecs qui pensaient que le monde était éternel ont du mal à admettre l'idée du jugement du monde. Il y a là une remise en cause radicale de leur pensée cosmique et circulaire. Cela montre bien qu'il y a chez Paul la volonté à la fois d'utiliser un vocabulaire compréhensible par tous, mais d'insister sans compromis sur les vérités de l'Évangile. Autrement dit, Paul ne ménage pas les susceptibilités au-delà du bibliquement acceptable. Dire le salut impliquera toujours un appel à la repentance, à la conversion, à la foi. Et même Paul dit que c'est Dieu qui ordonne de se repentir. Et Dieu ordonne à tous, en tout lieu, en tout temps, que les hommes se repentent. Et le verset 31 insiste sur l'urgence de cet appel. Dieu jugera le monde. L'annonce du jugement est une constante dans la prédication missionnaire et constitue normalement avec l'appel à la repentance la conclusion du discours d'évangélisation. Et vous noterez que Pierre conclut sa prédication dans la maison de Corneille ainsi. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et le jugement de Dieu est annoncé. C'est l'occasion pour Paul d'introduire le Christ, sa résurrection, ce qui suppose bien sa mort. Et l'apôtre Paul savait que l'annonce de la résurrection ferait réagir ses philosophes, mais il n'a pas caché ce scandale de l'Évangile. Et les philosophes, qui jusqu'ici l'avaient écouté sans l'interrompre, vont réagir, si bien qu'il ne va pas terminer son discours, et jugeant peut-être qu'il a assez parlé, ils lui disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Alors, avant que M. Luthi ne soit inspiré par ce mot des philosophes, je voudrais m'arrêter ici. Mais avant de terminer complètement, j'ai quand même à cœur de vous lire un extrait du testament pastoral de Paul dans son discours d'adieu aux anciens de Milet. Actes chapitre 20, versets 20 à 21, l'apôtre Paul dit « Vous savez comment, en rien de ce qui vous était avantageux, je ne me suis dérobé. Quand il fallait vous prêcher et vous instruire en public et en privé, adjurant juifs et grecs de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul décrit ici la façon dont il s'est acquitté de son ministère de prédicateur. Il ne s'est jamais dérobé, malgré toutes les difficultés, malgré l'hostilité qu'il a rencontrée, il a tenu bon. Il s'agit d'annoncer l'Évangile avec humilité. Mais l'humilité du prédicateur, son sens du respect de l'autre, ne doit pas être un déguisement de sa faiblesse et de sa lâcheté. Le verbe que Paul utilise ici et qui est traduit par « se dérober », on le retrouve aussi en Galates chapitre 2. Vous savez, c'est l'occasion du conflit d'Antioche entre Pierre et Paul. Et l'apôtre Pierre a eu peur des judaïsants, il s'est dérobé, il n'a pas osé s'afficher en public avec les Juifs, il a manqué de cran. Mais Paul, au contraire, nous dit qu'il ne s'est jamais dérobé quand il a fallu annoncer aux Juifs et aux païens la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il n'a pas dissimulé son message, il a annoncé tout le conseil de Dieu, avec pédagogie, comme nous l'avons vu, en fonction des capacités d'assimilation de ses auditeurs, mais il l'a fait. À l'expression négative « ne pas se dérober » correspond une autre expression qui traduit positivement la même attitude que l'on retrouve très souvent dans le livre des Actes des Apôtres et dans les écrits de Paul. C'est le mot grec « paresia » que l'on traduit souvent par « franchise »,« hardiesse »,« audace », assurance. La paresia, c'est le tout dire, le franc parler, la liberté de langage. Et c'est cette paresia qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, comme les prédicateurs du livre des Actes. Et nous devons prier que Dieu nous l'accorde, comme le faisait Paul. Il écrit aux Éphésiens, « Priez pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée, pour faire connaître avec hardiesse, en paresia, le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, le verbe est utilisé, paresiasomai, comme je dois en parler. » Seul le Saint-Esprit peut nous donner cette paresia. Parce que la paresia biblique n'est pas une sorte d'intrépidité naturelle que l'on pourrait tirer de son tempérament. Mais c'est la conséquence de la présence et de l'assistance du Saint-Esprit. C'est la conséquence de cette plénitude soudaine, de cet afflux d'énergie spirituelle au service de la parole, selon la terminologie d'Henri Blocher. Cette plénitude du Saint-Esprit soudaine au service de l'émission de la parole. Cette paresia, cette liberté de langage, ce franc-parler ne va pas dégénérer en insolence, en impudence, parce que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Dans les évangiles, surtout celui de Jean, Le Seigneur utilise souvent ce mot. Et sur ses lèvres, il a la nuance de parler en public. À découvert, il a la nuance de publicité, de clarté. Et Jésus nous dit que son message n'avait rien d'ésotérique, rien de secret. Il a parlé avec clarté. Cela nous rappelle que l'Évangile n'est pas un message ésotérique. Et il convient de le rappeler aujourd'hui. C'est sûr que l'ésotérisme attire un certain public. Il y a un retour de la gnose, ce salut par la connaissance, le fait de connaître certaines choses que tous ne connaissent pas. Mais cet exotérisme ne correspond pas à l'esprit chrétien. Et c'est pourquoi je pense que de nos jours, l'Évangile selon Jean est très très utile et très pertinent pour la prédication. Mais je termine en insistant sur l'aspect assurance, liberté de langage. N'ayons pas peur. N'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas de complexe d'infériorité devant les nouvelles spiritualités à la mode. C'est vrai que les gens les trouvent parfois plus adaptées à la modernité. Elles correspondent davantage à l'hédonisme ambiant. Elles n'ont pas de culpabilité, pas de péché, pas de dogme. Mais n'oublions pas que l'Évangile et l'Évangile seul demeure la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Soyons comme Paul, fermes et nuancés, diplomates et polémiques quand il faut l'être. Ayons le respect de l'autre et la fermeté de nos convictions. Désir de se faire tout à tous, mais fidélité fondamentale au message. Traduire sans trahir l'Évangile. Et prions que Dieu nous accorde cette parrhésia, cette liberté de langage dans notre prédication. Le livre des Actes des Apôtres se termine ainsi, et c'est ainsi que je terminerai avec ces mots. Paul recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance. Amen.